Si vous souhaitez tout savoir sur votre année de naissance, retrouvez-nous pour quelques émissions sur les années anniversaires commentées par Jean Saraméa, historien géographe retraité. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont 20, 30, 40, 50, 60 ans et plus en cette année 2022.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Nostrad. Nous avons le plaisir de retrouver Jean Saraméa pour nos années anniversaires. Et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à ceux qui sont nés en 1902, car il n'y a plus personne à l'heure actuelle.
Donc, sur la planète, plus personne n'est né en 1902, puisque la doyenne de l'humanité qui est japonaise est née tout début janvier 1903. Ce que, à Paris, on a appelé plus tard la Belle Époque. Les guerres sont loin, il y a encore des conquêtes coloniales. Une guerre vient de se terminer et les journalistes avaient fait des articles très précis de la guerre des bourgs, qui était une guerre coloniale, mais entre Européens, puisque c'était une guerre en Afrique du Sud, entre les colons britanniques et les colons néerlandais. Sauf que l'Afrique du Sud a deux langues officielles, le vieux néerlandais et l'anglais. L'anglais est dominant. Et cette guerre avait été terrible avec des massacres, avec les premiers camps de concentration. L'armée anglaise avait organisé des camps de concentration pour diminuer l'armée d'origine néerlandaise, et la guerre vient de se terminer. Donc, encore une fois, les cartes sont très différentes. Hein. Il y a les empires coloniaux qui sont presque terminés au niveau des conquêtes, pas tout à fait. Et comme je l'ai dit pour 1912, l'Europe est structurée, au moins au centre et à l'est, par les quatre grands empires. L'empire ottoman, capitale Constantinople, Istanbul, l'Empire russe, capitale Saint-Pétersbourg, l'Empire allemand, capitale Berlin, l'Empire austro-hongrois, capitale Vienne. Alors, en France, c'est le président Émile Loubet, qui est originaire de la Drôme. Émile Loubet, qui avait laissé un souvenir sympathique. Le président faisait 7 ans sous la Troisième République, mais avait un rôle politique extrêmement limité. Les décisions politiques étaient prises par le chef du gouvernement, que l'on appelait pas Premier ministre, mais président du Conseil. Alors, quelles sont les passions politiques? Ben, là, en 1902, la passion politique, c'est, même si ce ne sera voté qu'en 1905, c'est la future séparation de l'Église et de l'État. Passion politique d'anticléricalisme, 1901, 1902, 1903, surtout qu'en 1902, il y a la victoire électorale du Bloc de gauche, et le ministre Combes va faire fermer 2400 écoles catholiques. On s'achemine vers une séparation de l'Église et de l'État, c'est vraiment ce qui passionne l'opinion et ce qui divise également les différents départements, les familles, etc. Ce sera le ministère Valdec-Rousseau. Autrement, le grand reportage journalistique va être consacré à un drame qui touche l'ensemble français, c'est l'éruption de la montagne Pelée. L'éruption de la montagne Pelée qui fait presque 30 000 morts en quelques minutes à la Martinique. Les géologues avaient averti, et les historiens ont un peu cherché, hein, le préfet de la Martinique et le sous-préfet ont décidé de ne pas évacuer la ville de Saint-Pierre, qui va être complètement brûlée et rasée par le volcan en quelques minutes, parce que, justement, c'était le dimanche suivant les élections législatives. Autrement, au niveau technique, ben, c'est le premier câble sous-marin transpacifique. Transatlantique, ça existe déjà depuis la fin du Grand Empire. Mais le premier câble sous-marin transpacifique, ce qui permet une diffusion des nouvelles à l'échelon planétaire, parce que ça relie la Chine, le Japon et les États-Unis. C'est les économistes appellent une mondialisation de la technique et du commerce. Le commerce est très facilité par le fait qu'il n'y a que quelques monnaies. Toute l'Europe, ou presque, pas le Royaume-Uni, ni la Scandinavie, mais toute l'Europe a quasiment une seule monnaie à l'époque, qui est rattaché au franc or, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, même l'Autriche-Hongrie, pas l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, ce sont les mêmes pièces, quasiment, même si à une face nationale, ce sont les mêmes pièces qui ont le même poids, soit de bronze, soit d'argent, soit d'or, et d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de carte d'identité, donc si on en a les moyens, le réseau ferroviaire est presque le réseau actuel, sauf les TGV évidemment, donc on voyage facilement en Europe, et pour une grande partie de l'Europe de l'Ouest et du Sud, ce sont les mêmes monnaies, donc il n'y a pas de change. Ce sont les monnaies qui sont fondées sur le franc or.
C'est vrai que c'était bien pratique à cette époque-là. Hein.
Oui, alors ça va changer avec la guerre de 14, évidemment chaque pays va se replier sur une monnaie nationale plus ou moins impactée par la Première Guerre mondiale. Comprenons qu'il n'y a pas encore de radio. Les gens lisent le journal. Et ceux qui ne savent pas lire et écrire, je me souviens d'un témoignage dans ma famille, toute ma famille maternelle est d'Annonay, dans le nord de l'Ardèche, et c'était des ouvriers, des mégisseries, tout simplement, qui tannaient les pots. C'était extrêmement pénible, c'était dans l'eau bouillante, avec une odeur pestilentielle, parce que c'était avec les excréments de chiens que l'on tannait les pots. Les enfants étaient payés pour ramasser la moindre crotte de chien dans Annonay, parce que on faisait bouillir ça pour assouplir les peaux. Bon, eh bien, lorsque un ouvrier savait bien lire et écrire, les camarades lui tannaient plusieurs peaux, et pendant ce temps-là, ils faisaient la lecture du quotidien. Ils faisaient la lecture du quotidien à ceux qui travaillaient, bien sûr, mais qui n'étaient guère capables, même s'il y avait école obligatoire depuis les années 1880, dans les milieux ouvriers et surtout en zone rurale, il y avait très peu d'enfants qui allaient à l'école, même en 1902. À la guerre de 14, il y a encore une partie des appelés qui ne savent ni lire ni écrire. Ça se met en place lentement. La couverture nationale de l'instruction publique. Cette année-là, les frères Wright aux États-Unis, à partir des plages de l'est du pays, commencent à faire s'envoler quelques avions plus lourds que l'air. C'est vraiment le tout début, mais vraiment le tout début de l'aviation. Et en France, alors la recherche scientifique se focalise sur l'uranium avec Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie, en 1902, vont faire plusieurs découvertes, et c'est en 1903 qu'ils auront le prix Nobel de physique. Ce sera partagé. Au niveau culturel, Debussy, grand compositeur français, compose Pélias et Mélisande, après le poème de Maeterlinck. Maurice Ravel, autre grand compositeur français, compose Pavane. André Gide, grand écrivain, écrit L'Immoraliste. Jack London, dans le monde anglophone, écrit L'Appel de la forêt, et porté à l'écran plusieurs fois, beaucoup plus tard, évidemment. Au niveau des chansons, j'en ai écouté, parce qu'on a les enregistrements d'époque, même s'il n'y avait pas de radio, on pouvait enregistrer les chansons et les passer sur des électrophones à manivelle, aller changer les aiguilles très souvent, parce qu'elles s'usaient. Donc, Félix Mayol, le chanteur toulonnais, a enregistré en 99, mais il chante beaucoup encore, ce titre, c'est « Viens Poupoule ».
Ah,
viens Poupoule, viens Poupoule, viens. Bon, certains historiens pensent que la Poupoule n'est peut-être pas une femme. J'ai entendu ça à la télévision il y a quelques jours.
Ah bon,
je n'avais pas imaginé, mais pourquoi pas. Lors de soirées, le tango arrive d'Argentine. Le tango arrive d'Argentine. En 1902, on reprend une chanson qui est déjà connue, mais enfin qui est très chantée en 1902, c'est le Petit Quinquin. Ce sont les Ch'tis, hein, c'est une chanson en patois du nord de la France. Autrement, Berthe Silva a chanté depuis Et mais vraiment, c'est fredonné dans toute la France, pas seulement rares familles qui ont un électrophone, mais il ne faut pas oublier que sur les marchés, il y a encore les colporteurs, il y a ceux qui vendent les partitions, et on chante beaucoup. On chante beaucoup sur les marchés, on fredonne dans la rue, on chante en famille, et tous les dimanches, on chante en famille. Donc ces airs sont en définitive très populaires. Et puis il y a eu l'exposition en 1900, cette exposition internationale qui a eu un succès exceptionnel, qui a fait connaître de nouveaux chanteurs, qui s'appellent Mourard, qui s'appellent Fred Gouin, qui s'appellent Maurice Chevalier, qui commence à cette époque, compositeur de musique de chansons Vincent Scotto, qui sera célèbre dans les années 30-40, mais commence à écrire des chansons en 1902 et 1900-1901. Miss Tinguette, la Miss, qui va chanter ce qu'on appellerait des tubes maintenant, et Dranem, qui depuis fin 1901 chante « Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois ». Là aussi, ça fait sourire, mais c'est repris, tout au moins le refrain, parce que c'est plus facile à mémoriser. Donc, c'est une période qui chante beaucoup.
Eh ben, voilà. Parce que, dis donc.
Eh oui, c'est vraiment le début du XXe siècle, et c'est autre chose que le XIXe siècle. Et j'entends encore dans ma famille d'Annonay des personnes qui, évidemment, avaient pris de l'âge, parce que moi je suis né en 51, mais qui disaient à une grand-mère ou à une tante, qui disaient « Oh, mais toi tu es de l'autre siècle, l'autre siècle était né en 99 !» Mais bon, sous-entendu, oh, le 20e siècle, ce n'est pas pareil.
Ah, c'est clair que chaque année n'est pas pareil à l'autre.
Eh bien voilà, voilà. Eh bien, merci de votre écoute et je vous ai peut-être apporté quelques souvenirs que vous avez entendus en famille. Sinon, eh bien voilà, on continuera.
Donc Jean, pour cette année-là, nous allons écouter quelle chanson?
Eh bien, chanson qui fait sourire. Si on trouve un enregistrement d'époque, évidemment ce n'est pas la qualité des enregistrements actuels.
C'est clair.
Mais pourquoi pas Dranem, qui va être célèbre encore jusqu'au début des années 30, hein. Dranem des jeunes, avec « Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois
voilà. ». Eh ben, on va manger des petits pois alors. Merci Mais beaucoup,
oui.
Jean.
Il y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis. C'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Jour de la révision militaire, j'étais nu comme un ver de terre, en me tripatouillant partout le corps. Vous êtes malade, me dit le major. Quel est votre cas d'exemption? En dessous la toise, je lui réponds. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Sitôt que nous arrivons sur terre, nous commençons d'abord par braire. On nous regarde de face et de profil pour voir notre état civil. Dites-moi quoi reconnaît-on, si c'est une fille ou un garçon? Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans un grand bal de ministère, je dansais avec une grosse douairière. Et chaque fois que je la faisais valser, je recevais ses nichons dans le nez. Je brisais en soulevant ce tonneau qui pesait plus de 300 kilos. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans le département de la Charente, un jeune candidat se présente. Vous me connaissez depuis long jour, j'ai pas besoin de faire de discours. Et du reste, tous votez pour moi, car voilà ma profession de foi. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Quand je berçais ma rêverie, avec Rosa, ma tendre amie. Le soir à l'heure des aveux, dans les sentiers silencieux, en la regardant dans le blanc des yeux, je lui dis d'un air très mystérieux: oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Lendemain du mariage de Camille, la mère demande à sa fille, avec un petit air empressé: dis-moi comment ça s'est passé. Baissant les yeux timidement, elle répond à sa maman: oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh c'est idiot, hein, ça ne se mange pas avec des doigts. Couplet patriotique. Si les ennemis, comme naguère, voulaient envahir nos frontières, ils peuvent venir car nous sommes prêts. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils prendraient? Ils s'écrieraient en se déminant au moment du chambardement: oh les petits pois, les petits pois, les petits pois. Oh, je m'en vais, non, c'est trop bête de chanter des trucs comme ça. À mon âge, au revoir.